problème. Desjardins, hier, a tenu une conférence de presse assez étrangement. Desjardins s'est vanté de sa totale transparence dans le dossier de la fuite de données personnelles. Sauf que quand on veut leur poser plus de questions, là, ils sont pas disponibles. Ça fait qu'on s'est dit, on va se poser plus de questions avec des gens qui connaissent le monde du hacking, qui connaissent le monde des données personnelles, de la sécurité informatique. Et ce que Desjardins a annoncé hier, c'est que, dans le fond, si vous avez déjà fait affaire avec Desjardins, que vous soyez mort, ou que vous soyez un ancien client, ou que vous soyez un client actuel, vos données personnelles ont été volées pardon, par l'espèce d'imbécile, on va le qualifier d'imbécile pour l'instant, là, qui a sorti toutes les données personnelles de tous les clients de Desjardins pour les donner, bizarrement, contre quelques cartes cadeaux, prétend-il, à un prêteur sur gage qui, bizarrement, les aurait revendus à un réseau de courtiers, etc. Et plus je regarde cette histoire-là, plus je suis scandalisé qu'on ait aucune arrestation là-dedans. J'ai pas d'arrestation. Le type, il est chez eux. Ça a l'air qu'il est bien malheureux, là. Il fait pleurer dans le Journal de Québec. Il dit que il est ruiné, qu'il va se faire saisir son condo, qu'il n'y a plus d'argent. Mais comment ça se fait qu'il est encore en liberté?
Mais c'est pour l'enquête, moi, je crois. Mais tant qu'à ça, je préfère que l'enquête avance et soit bien faite qu'encore une fois, quelqu'un qui passe entre les mailles du filet puis que ce soit tout croche.
À cause de l'arrêt de Jordan, parce que ça leur prend 18 mois pour enquêter. C'est ça. Mais ça a quelque chose de profondément injuste pour le client de Desjardins que je suis, qui n'a pas quitté Desjardins, qui a tenu bon, mais qui se dit, coudonc, là, ça avance-tu, cette enquête-là? Il me prête-tu au sérieux ou bien je suis juste un pantin, moi, là? Steve Waterhouse est un spécialiste en sécurité informatique. Bonjour, Steve.
Bon matin.
Vous êtes aussi au Hackfest.
Oui, je présente au Hackfest ce matin pour une autre année, qui est l'activité d'éducation, faut le dire comme ça. C'est une conférence qui a lieu à Québec, qui est la plus grosse, en fait, dans l'Est du Canada, pour pas dire l'Est d'Amérique du Nord, et qui rassemble justement des gens, pas juste des malfaisants, mais des gens... il y a une croyance populaire que c'est un festival de hackers, puis toute une gang avec des cagoules par-dessus la tête qui pitonnent jusqu'à 3 heures du matin. Mais ça, c'est un cliché. Mais il reste que c'est des gens, des expertises. Mais même le CRS, il est là d'ailleurs cette année. Hey. Le CST était là pour recruter les meilleurs dans le domaine de la cybersécurité qui œuvrent au festival.
Est-ce que ce que l'on sait de l'histoire de Desjardins nous démontre pas qu'il n'y avait pas des prudences fondamentales? Moi, là, ce que je crois savoir, c'est que si je suis même autorisé à jouer dans les banques de données, si je le fais d'une manière suspecte, il va y avoir un signal d'alarme. Si j'ai ramassé plus de 150 noms d'identité, il va y avoir un signal d'alarme, puis mon employeur va se faire dire « Youhou, es-tu sûr de ce qu'il fait, lui-là, là? »
Mais pour ça, Myriam, il faut que le système soit en place. Et il faut que les gens le sachent. Tout le monde le savait qu'il n'y avait aucun système chez Desjardins jusqu'à juin, là. Et donc, le plat de bonbons était complètement... Le buffet était complètement accessible. Et tout le monde s'est servi là-dedans. Et c'était connu, malheureusement, dans l'industrie du marketing, du télémarketing, que les gens voulaient avoir... Quelqu'un se partait en business, voulait avoir une liste d'une centaine, mille noms, peut-être. Ah, on va t'arranger ça. Quelqu'un chez Desjardins qui travaille à l'interne.
Ah oui?
Pouvait, oui.
Ça se vendait déjà?
Oui. C'était quelque chose courant, puis ça, c'est des gens à l'interne me l'ont confirmé.
C'est juste que ce gars-là l'a fait à une échelle et un volume qui ne permettait pas de...
Exactement. Mais que là, il s'est fait... Si les autres l'ont fait avant, mais lui, il s'est fait pogner. Mettons ça comme ça.
OK. Et dans les autres banques, les autres institutions bancaires, est-ce qu'ils sont un peu plus prudentes ou bien... On le sait pas, hein?
Chacun a sa recette pour faire sa gestion du risque, sa gestion d'information. Ayant travaillé pour une grosse institution à Toronto par l'installation de tels systèmes de surveillance, ils ont, décidé à un moment X, ils ont fait les évaluations de menaces et de risques, ils ont dit, je pense qu'il faut qu'on protège les accès puis s'assurer qu'il n'y a rien qui sort de notre institution. Ça commence comme ça. Mais si personne fait attention à cette évaluation du risque-là, puis ils disent ça arrivera, mais que ça arrivera, mais on se sent pas concerné par ça, ben c'est certain qu'ils vont faire une gestion à moitié, là.
J'ai été très très surprise de voir que durant la campagne électorale, c'est un sujet qui n'est pas ressorti. J'ai essayé d'envoyer... Oui. On a envoyé une question, nous autres, à tous les partis.
Comme j'ai fait aussi, oui.
Et on a reçu des réponses qui étaient... Oh mon Dieu, c'était de la poutine passée au hachoir.
C'était de la poésie, Myriam.
T'avais de la misère à retrouver le fromage quick-quick là-dedans. Là, ça n'avait pas de bon sens. Les libéraux ont été vagues. Ils ont dit qu'ils ont renforcé le commissaire à la vie privée. Les conservateurs nous ont dit qu'ils feraient un comité s'ils étaient élus pour étudier la question. Le NPD a dit qu'il permettrait qu'on change de numéro d'assurance sociale de façon préventive. Ce que je comprends, c'est que ça donne rien.
Non.
Le Parti populaire, qui est quasi rayé de la carte, étant donné que son chef a été battu, nous a dit qu'ils n'y avaient pas encore pensé. Et les Verts et le Bloc québécois n'ont même pas répondu à la question.
Je ne suis pas surpris.
Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de réveiller les politiciens là-dessus? Parce que c'est de juridiction fédérale, les données personnelles, le code criminel, etc.
Le code criminel, oui. Mais la gestion de l'information, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec ont des juridictions indépendantes du reste du Canada.
Ah ouais?
Le commissaire à la vie privée, genre juridiction, a même mis sur le reste du Canada. Mais quand il vient le temps d'en faire cette gestion d'information-là, au Québec, t'as un commissariat à l'accès à l'information. Hey, que ça fait 25 ans qu'il existe, que la majorité des gens ne savent même pas. Ils sont rétrogrades aussi dans la façon dont ils approchent parce que, un, ils se font pas connaître. Deux, ils ne donnent pas leur juste à toutes les organisations pour être capables de mettre des lignes directrices avec lesquelles, sur lesquelles le monde s'aligne. Comme le commissaire à la vie privée du Canada met en place. Mais les enquêtes qu'ils mènent sur des brèches d'information, les rapports sont très vagues. Puis je trouve que c'est pas du matériel qui...
Ils enquêtent sur Desjardins? La fuite,
c'est encore nébuleux. Tout le monde dit oui, les policiers sont là-dedans, le commissaire à la vie privée là-dedans, etc. Là, celui du Canada aussi est là-dedans, ça touche quand même Canada Wide. Mais très, très louche, parce que juste le commissaire à la vie privée du Canada, je veux dire, l'affaire des centres d'achat l'année passée, là, ça va faire maintenant 19 mois qu'on rentre dedans, là. Toujours pas de rapport.
Les centres d'achat, c'est ceux qui nous filment.
Les caméras sur les cartes interactives.
À la Sainte-Foy, là.
Exactement. Okay. Puis ça avait commencé avec un centre d'achat dans Calgary.
C'est vrai.
Puis ça fait 19 mois, aucun rapport de l'Alberta, aucun rapport du commissaire.
Donc, c'est au Québec qu'il faudrait que je botte des fesses de policiers?
Absolument.
Ça donne bien, ils sont en campagne dans Jean Talon.
Ils sont à côté.
Ben oui, ben c'est ça, c'est une bonne idée parce que faut laisser savoir à nos élus que, hey, c'est nous autres, nous, comme citoyens, électeurs, moi, là, tu me représentes, je veux ça qui se passe. Puis en campagne électorale, il y a juste une question au dernier débat des chefs francophones, et c'était Lise Ravary, Hélène Buzetti.
Oui.
Qui a amené la question, puis c'était quasiment une question oui ou non.
Oui.
Fait qu'il n'y a pas eu de débat là, puis le sujet est resté lettre morte.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Idéalement, on serait dans un pays moderne où les politiciens se disent « ça n'a pas de bon sens, j'ai une augmentation de 100% des vols d'identité », parce que c'est à peu près ça la statistique, là. Une augmentation au cours des 5 dernières années de 100% des vols d'identité. Les données personnelles fuient de tous bords, de tous côtés. On a Equifax qui n'a échappé, on a Capital One qui n'a échappé, on a Desjardins qui n'a échappé, regarde, la Banque nationale en a échappé également. Ben, en fait, c'est plus court de faire la liste de ceux qui n'ont pas échappé.
Quasiment, oui.
Bon. Donc, je prends ça en main. Le numéro d'assurance sociale est-il un problème?
Non. Le numéro d'assurance sociale, c'est un identifiant d'un dossier fiscal. La méthode de s'en servir ou s'en servir, c'est ça qui est problématique. Puis quand je le dis souvent, cette histoire-là, quand j'installais des systèmes d'authentification à la Défense en 99, il y avait un projet au fédéral d'avoir une carte à puce pour tous les citoyens au pays.
En 99?
En 99. 2000, 2001, ça s'est jasé, tout ça, ça s'est gratté à la tête. 2002, 2003, boum, ça a été tabletté. Puis on est 20 ans plus tard avec le même problème. Parce que, donc, il faut une manière de s'en servir d'un identifiant. Peu importe la biométrie, là, ça, c'est un accessoire. Mais le principe fondamental, il faut qu'il y ait un registraire centralisé avec lequel tout le monde s'identifiait. Un peu comme le bureau des passeports, mettons. Je mets seulement le registraire du pays, puis ça. Puis tout le monde s'identifie et se font émettre une carte nationale, puis que c'est bon partout. Et là, tu greffes à ça toute la partie commerçante, parce que tu vas t'acheter, peu importe, tu as besoin d'un identifiant sérieux. Tu te présentes là, lui, il tape le numéro de série de la carte, sur le portail apparaîtrait ta photo avec ton nom, une manière facile d'authentifier qui est qui, là.
OK.
Paf, c'est réglé. Mais ça c'est long. C'est long. Il y a beaucoup de consortiums présentement qui travaillent ensemble là-dessus. Il arrive avec une solution, mais la solution est... Ça tarde à prendre de la place, là.
OK. Donc, le numéro d'assurance sociale, le problème, c'est la façon dont on s'en sert et le fait de ne pas avoir une carte claire, nette,
précise. Parce qu'en créant un deuxième, tu doubles le problème en passant.
Donc, on vient rien régler. Les pénalités. British Airways a été mis à l'amende en Grande-Bretagne pour avoir échappé des données personnelles de ses clients. J'ai l'impression qu'au Québec, ceux qui échappent des données personnelles, ils n'ont même pas une tape sur les doigts.
Au Canada non plus. Je te donne un exemple, Myriam. Quand il est arrivé à Ashley Madison, 38 millions de personnes que le détail de vie privée...
Ah oui, ça, c'est l'application pour tromper son conjoint ou sa conjointe, ça, là?
Non, non, quand même, le pas un réseau social extra-conjugal.
Ah, d'accord, oui, oui, oui.
Et dans l'enquête bilatérale qui est arrivée avec l'Australie et le Canada, à la fin, la conclusion, puis ça, c'est un sous-ministre que j'ai questionné durant une conférence. Il est arrivé, ben, on est d'accord avec qu'est-ce qu'ils ont fait, ils sont conscients des problèmes, ils ont corrigé ci, ils ont corrigé ça, puis ils leur feront plus, tape ses doigts, fini bail, on continue. Pas d'amende, zéro sur l'impact que ça a donné sur paquet de monde.
Donc, les compagnies n'ont aucun impact financier.
Absolument rien.
S'ils échappent les données personnelles de leurs clients,
financier
ou pire encore s'ils les vendent.
La seule affaire qu'ils se font dire, c'est l'Oster, là, que tu as fait quelque chose de pas correct, tu te rapportes à chaque mois, six mois, puis tu me dis où tu en es rendu. Ce qui est complètement de lui. Excusez-le, je ne t'ai pas dit imbécile. Mm. Contrairement à en Europe, qui ont le règlement général de la protection des données personnelles. Et ça, là, ça a du mordant. Et surtout, quand il arrive une fuite d'information, la divulgation de 60 jusqu'à 72 heures après l'incident.
L'autre chose qui m'humilie, c'est de voir qu'on paye Equifax pour tenir à jour mon dossier, alors qu'eux-mêmes en ont échappé des données personnelles, là.
Oui.
Bon.
Il avait
pour
pas
tenir
été
à jour
à
mon dossier.
Oh, et puis il y a eu des délits d'initiés, qu'il y a des gens qui sont en prison par rapport à ça, là.
Okay. Donc là, on est en train de payer une compagnie. Elle est en train de devenir milliardaire.
Elle l'est déjà.
Grâce notamment à la fuite de données personnelles de Desjardins. Là, dont je suis abonné à vie, moi, dans Equifax, via Desjardins. Alors que, je pense que c'est Stéphanie Gramont dans la presse qui avait raconté que, par exemple, en France, ton dossier de crédit est détenu par la Banque de France.
Oui.
Et on t'avise quand il y a un changement de dossier de crédit. On fait pas ça dans ton dos.
Exact.
Donc, ça te permet de répliquer ou de dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Mais ce n'est pas une compagnie privée qui te rançonne pour avoir accès à tes propres renseignements. Est-ce que ça fait pas partie des solutions qu'on regroupe au Canada? Les dossiers de crédit?
Définitivement. Et je ne suis pas le seul qui le dit. Et ça revient à mon principe de registraire centralisé, qui, lui, à ce moment-là, en serait le gardien de nos informations en termes de vie privée. Et de cette façon-là, répondrait aux parlementaires si jamais il y a quelque chose de correct ou pas correct qui se brasse. Et de cette manière-là, nous, comme citoyens, ben, on aurait un résultat positif, il me semble.
Donc, les recettes sont connues. Il faudrait à tout le moins que les gouvernements fédéral et provincial disent, peut-être chacun de leur bord, on se fait un comité d'experts avec des recommandations, puis on va y suivre.
De grâce, pas de comité, s'il te plaît. Ça prend du leadership, Myriam, ça prend une direction claire.
Ils comprennent rien là-dedans. Là. La plupart d'entre eux, ça leur prend une leçon pour ouvrir leur iPhone. Là.
Je le dis juste que c'est même pas un problème technologique. Là. C'est un problème vraiment là, de gouvernance sérieux et profond que là, à un moment donné, il faut qu'ils enlèvent le red tape, comme on dit en bon français, puis qu'ils se mettent la direction dans la tête, puis ils disent, hey, on fonce, puis on s'en va dans cette direction.
C'est quel ministre?
Présentement, il y en a trois qui sont à la tâche pour nous aider là-dessus. Le ministre de la Justice, Mme Labelle, le ministre des Finances, M. Girard, et le ministère de la Transformation numérique. Les trois, présentement, travaillent.
Ils travaillent?
Oui, là-dessus. Le ministre Girard, hier après-midi, il en disait un mot là-dessus, que sont en train de repenser une loi, donc la justice, sont en train de revoir des conséquences financières, et de façon technologique en cybersécurité, M. Kerr, comment est-ce qu'ils vont faire en sorte qu'ils vont amalgamer ces trois créneaux-là pour être capables de nous amener pas nécessairement un produit, mais vraiment une façon d'approcher la situation telle que tu le présentes.
Espérons que ça aboutisse, là, que ça s'en aille pas dans les limbes, parce que l'autre problème, et je pense que tous les gouvernements sont terrorisés par ça, c'est qu'aussitôt que tu dis le mot informatique, pouf, ça vient de coûter trois fois le prix.
Encore là, tout problème informatique comme ça, de gestion de projet, là, ça revient à un autre problème de gouvernance. Faut que les gestionnaires arrêtent de se laisser mener par ces consultants-là, par ces compagnies de lobbyistes-là, et de demander quelque chose de clean. Et à l'interne des gouvernements, mais qui arrêtent de laisser tout le monde partir, puis que personne soit présent pour être capable d'interpréter qu'est-ce qui se font servir, et se faire servir n'importe quoi non plus.
Merci beaucoup, Steve.
C'est un plaisir. Bon.
Steve Waterhouse, c'est un spécialiste, un expert en sécurité informatique, et un ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale. Qu'est-ce que toi? Merci.
Bonne journée.
Que Québec se lève.